France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui.
Salomé Sacquier, journaliste et autrice.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
J'attends que les femmes fassent la révolution. Je n'arrive pas à comprendre en fait qu'elle n'ait pas déjà eu lieu. Des colères se sont exprimées, des révoltes ont éclaté ça et là, suivies d'avancées pour les droits des femmes. Mais nous sommes encore loin, si loin du compte. Alors oui, j'ai envie de dire plusieurs choses aux jeunes femmes qui préparent le monde de demain. D'abord, soyez indépendantes économiquement. C'est une règle de base, la clé de votre indépendance, le socle de votre libération, le moyen de sortir de la vassalité naturelle où la société a longtemps enfermé les femmes. Comment devenir un être de projet si l'on demeure assujetti au pouvoir d'un protecteur? Ce conseil peut paraître superflu aux jeunes filles qui préparent leur bac et entendent travailler, mais sachez qu'à la première crise économique, c'est le travail des femmes qui est toujours remis en cause. Ce sont elles les premières victimes du chômage, elles les plus mal payées. Alors ayez de l'ambition, développez de grands rêves, mais ne perdez jamais de vue l'exigence primordiale de l'indépendance. Ensuite, soyez égoïste. Je choisis ce mot à dessein. Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres, les parents, les enfants, les compagnons, le cercle professionnel et familial. Mais rebellez-vous, pensez enfin à vous, à ce qui vous plaît, à ce qui vous permettra de vous épanouir, d'être totalement vous-même et d'exister pleinement. Vous êtes importante, devenez prioritaire. À cela, j'ajoute, refusez l'injonction millénaire de faire à tout prix des enfants. Elle est insupportable et réduit les femmes à un ventre. Dépossédées de tout pouvoir, elles n'ont longtemps eu droit qu'à ce destin, perpétuer l'humanité. Enfin, n'ayez pas peur de vous dire féministe, c'est un mot magnifique, vous savez, c'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Bonjour Salomé Sacquier.
Bonjour.
Ce texte a été écrit par l'avocate Gisèle Halimi, décédée en 2020, vous l'aviez reconnu.
Oui, je l'adore.
Et il était donc adressé aux jeunes femmes qui préparent le monde de demain. C'est un message qui résonne pour vous?
Ah oui, puis Gisèle Halimi, c'est une de mes idoles, donc j'aime énormément ce texte.
Indépendance économique, un certain égoïsme, le féminisme, on en reparlera avec vous. À tout juste 30 ans, vous êtes devenue une figure incontournable de votre génération, du journalisme et aussi de l'édition, avec deux livres à votre actif. Sois jeune et tais-toi, résister, qui ont fait un carton en librairie. C'est l'occasion, Salomé Sacquier, de revenir sur votre parcours pour comprendre les racines de votre histoire. Et cette histoire, elle commence le 10 mai 1995. Voici le petit journal de votre naissance, préparé par Valérie Ayestaraï et Isabelle Font, rendu de l'INA.
Bonjour. La France n'a plus de Premier ministre. Pour quelques jours seulement, Édouard Balladur vient d'adresser sa lettre de démission à François Mitterrand. Jacques Chirac continue de consulter dans son bureau de l'Hôtel de Ville de Paris. Ce matin, il a reçu notamment René Monory, le président du Sénat.
Le gouvernement pourrait être un jeu de pistes qui s'appellerait « Chercher la femme ».
Déjà, il est très difficile de trouver un nombre important de ministres hommes alors qu'il y a là un gisement qui a une expérience importante. Il est très difficile de trouver autant de ministres femmes ayant également l'expérience et la compétence. Alors vous me direz que... Oui, vous me direz...
Invité de ce 13-14, Michel Charras, qui a été un des plus proches collaborateurs de François Mitterrand. François Mitterrand, élu il y a 14 ans, c'était le 10 mai 1981.
La nouvelle carte jeune sera utilisable en France et en Europe. Elle est disponible à partir de ce matin. Elle permettra aux moins de 26 ans de bénéficier de réductions dans les transports et dans les activités culturelles et sportives. La carte jeune coûte 120 francs, sa validité est de 15 mois.
La pollution à Paris a atteint des sommets la semaine dernière, avec des pics de pollution allant jusqu'à 7 ou 8, alors que la norme est entre 3 et 4.
Ce journal est terminé.
Voilà, Salomé Sacquier, c'était le jour de votre naissance, le 10 mai 95. Faut resituer dans le temps, parce que trois jours avant, Jacques Chirac avait été élu président de la République. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous venez d'entendre là ?
C'est extraordinaire, mais quelle sélection ! C'est fou ! Bah, c'est qu'il y a déjà des thématiques qui sont très similaires à celles d'aujourd'hui et qui sont des thématiques sur lesquelles je vais me pencher plus tard. La politique, l'égalité femmes-hommes, la pollution, la carte jeune, la question de la précarité économique des jeunes. Donc c'est vrai que là, c'est des thématiques évidemment qui me parlent et ça fait vraiment bizarre d'entendre ça.
C'est ça, avec un monde qui était en francs évidemment et pas en euros quand vous êtes né. Vous naissez en Seine-et-Marne, c'est ça ?
Absolument.
Mais c'est pas du tout là que vous allez passer votre enfance.
Et non, mes parents vont quitter la Seine-et-Marne quand j'ai un an, donc en réalité je me souviens pas du tout de cet endroit, pour aller en Ardèche, donc où j'ai grandi, qui est donc un département du sud de la France, ce qui n'a rien à voir avec la Seine-et-Marne, et je me sens plus ardéchoise qu'autre chose.
Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents d'ailleurs ?
Mon père était professeur en lycée professionnel et ma mère était institutrice.
Et pourquoi ils décident de quitter la région parisienne pour aller en Ardèche alors à ce moment-là ?
C'est une bonne question, je pense qu'il faudrait leur poser, mais de ce que j'ai compris, c'est quand même avant tout qu'ils avaient un désir de nature pour élever leurs enfants. Ils étaient allés voir des amis, il me semble, dans ce département quelques années auparavant. Et ma mère, notamment, est tombée complètement amoureuse de cet endroit fait avant tout de forêts, de nature, de rivières, de falaises. Et elle s'est dit, c'est là que je veux élever mes enfants. Et mon père aussi a eu un coup de cœur aussi pour cette région. Donc ils ont décidé de complètement, radicalement changer de vie, sachant que ça n'avait vraiment rien à voir avec leur vie d'avant. Et de se dire, on va élever nos enfants là-bas, puisqu'après, ils feront deux autres enfants aussi. Donc ils seront élevés, toutes les trois, on sera élevés en Ardèche. Ouais,
donc des néo-ruraux, quoi, vraiment.
Complètement.
En 96, hein, puisque c'est
totalement. Alors, je crois qu'ils ont mis un peu plus de temps à arriver en Ardèche. Ils sont passés par l'Isère brièvement. Ouais. Mais oui, c'était à l'époque. Je crois qu'il y en avait déjà, hein, des néo-ruraux. Peut-être aujourd'hui, il y en a encore plus, mais il y en avait déjà. Et comme ils étaient fonctionnaires, c'était possible.
Et alors, quelle sorte d'enfance vous avez eu dans ce décor ardéchois ? Quel type d'éducation ? Ça ressemblait à quoi, votre vie là-bas ?
Une enfance proche de la nature, encore une fois. Je pense que c'est ce qui caractérise avant tout le mode de vie qu'on avait, puisque c'est ce qu'on fait là-bas. C'est-à-dire que les dimanches, on va à la rivière. C'était vraiment quelque chose qu'on faisait beaucoup. On allait faire des promenades, faire des cabanes dans la forêt, faire du vélo, de la rando. Plus tard, au collège, j'ai fait une spécialité canoë-kayak.
Ouais,
ce qui est quand même le genre de spécialité qu'on n'a pas, je pense, dans beaucoup de collèges.
Ouais.
Donc il y avait, mais j'étais pas une immense sportive, mais en tout cas, c'était la nature était quand même absolument, absolument centrale dans notre vie.
Et vous étiez quelle sorte d'enfant ? Alors, vous, plutôt casse-cou, sportif, Salomé Sacqué ou...
Non, pas spécialement. J'étais passionnée par les livres. Donc j'avais une vraie obsession avec ça, il fallait toujours venir m'éteindre la lumière, je pense comme peut-être plein d'enfants aussi, mais j'avais vraiment la chance déjà d'avoir des livres chez moi, et de lire énormément.
Vous lisiez la nuit ?
Je lisais complètement la nuit, tout le temps la nuit, c'était insupportable, il fallait toujours venir m'enlever les livres, parce que déjà j'aimais pas trop dormir, donc je me plongeais dans des ouvrages. J'étais plutôt studieuse en tant qu'enfant, qu'élève, j'aimais beaucoup l'école, et... J'aimais aussi le sport, la nature, mais c'était pas le centre de mon existence. C'est juste que là-bas, c'est quand même principalement ce que tout le monde fait, quoi.
Et vous lisez encore la nuit aujourd'hui ou pas ?
Tout à fait, toutes les nuits.
C'est vrai ?
Ah oui, oui.
Mais vous avez besoin de peu d'heures de sommeil ?
Je suis un peu insomniaque, on va pas se mentir. Ouais. Je suis un peu insomniaque et c'est un temps, la nuit, que j'aime beaucoup parce que tout le monde dort, donc on est complètement seul. Il y a une espèce d'expérience de la solitude et du calme que j'adore et qui est propice à la lecture parce qu'il n'y a rien pour nous interrompre. Même le téléphone ne va pas sonner. Donc aujourd'hui encore, c'est un temps que j'apprécie énormément pour deux choses. Soit pour lire des essais dans le cadre de mon travail que je n'ai pas lu parce que j'ai fait à la dernière minute, donc je lis très souvent des essais en pleine nuit, soit je me plonge dans un roman ou quelque chose qui va vraiment m'emporter et ça peut aller jusqu'à 6h du matin.
Et cette nuit, vous avez lu quoi par exemple alors ?
J'ai lu quelque chose de très léger, une bande dessinée de Salomé Lahoche, qui s'appelle Ancoli, qui est l'histoire d'une sorcière un peu désinvolte. Mais là, c'était très léger, mais très plaisant, et puis beaucoup d'humour.
Vous avez déclaré, mes parents trouvaient cool d'avoir le plus de cornes possible sous les pieds, dans cette vie ardéchoise. J'aimerais que vous commentiez cette citation.
Alors, c'est un scoop.
Très intéressant. Ah oui, c'est un scoop que vous avez livré à Anna Massardier, qui a préparé ce dossier.
Je ne sais plus pourquoi j'ai sorti ça. Non mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a suivi aujourd'hui, c'est que comme on allait tout le temps à la rivière et qu'on marchait sur des cailloux pendant, j'allais dire des heures, mais en tout cas très souvent, il y avait le fait de crapahuter un peu entre les rochers, entre les cailloux, les plages de cailloux, il était considéré par ma famille, et je pense peut-être beaucoup de gens, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais en tout cas par ma famille, comme une bonne chose que d'avoir de la corne sous les pieds. Donc on faisait des comparaisons de cornes sous les pieds pour savoir qui pourrait marcher le plus longtemps sur les cailloux. Et c'est quelque chose que j'ai gardé. Alors peut-être les gens vont se dire
la
c'est
dégoûtant. La corne sous les pieds ?
Non mais juste parce que c'est, pour moi, ça veut dire qu'on est autonome dans un espace naturel et qu'on va être, qu'on va être capable de marcher correctement sans avoir mal. Et donc aujourd'hui, moi j'ai plein d'amis à Paris qui font des soins des pieds pour s'enlever les peaux mortes et avoir les pieds les plus doux possibles. Et c'est vrai que je n'ai pas encore ce type d'attitude. Je ne sais pas si c'est bien de révéler ça.
En tout cas, merci de l'avoir livré à la Terre au Carré, parce qu'on est très heureux de ce scoop absolument essentiel. Mais cela dit, quand on prépare la résistance, ça peut être bien d'avoir de la corne sous les
pieds. Absolument, hein, sait-on jamais. Sait-on jamais.
Ça peut vous servir. Vous rêviez à quoi alors quand vous étiez en Ardèche ? Vous aviez des perspectives, vos lectures, et vous donnaient envie de faire quoi plus tard ?
Plusieurs choses. Avocate, je pense que la première figure que j'ai découverte, alors plus au collège, c'était Gisèle Halimi, qui me fascinait, me passionnait. Et le métier d'avocat qui était fortement fantasmé de ma part, puisque c'était ce que je voyais principalement dans les films, m'intéressait dans cette idée de justice, dans cette idée d'éloquence, d'intelligence aussi. Donc voilà, c'est un métier que j'ai longtemps convoité. Il y avait le métier de comédienne également. Mm-hmm. Comédienne de théâtre, c'est important, parce que je faisais du théâtre. C'est l'activité que j'ai faite depuis mes 5-6 ans. Ouais. Donc j'ai fait du théâtre pendant quasiment 15 ans, et c'était... j'aurais adoré être comédienne. Et vers 13 ans, je me suis prise de passion pour le journalisme, mais donc un tout petit peu plus tard. Parce que
à 13 ans ?
Oui, parce que j'avais vu un film hollywoodien. Donc vraiment, j'aimerais avoir une origin story un peu plus intéressante que ça, mais c'est vraiment parce que... Non mais comme quoi, c'est tellement important les représentations qu'on a
et
dans les films.
Et c'était quoi comme film ?
C'est un film qui s'appelle Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Connelly, que je ne reverrai pas du tout de la même manière aujourd'hui. Je ne veux pas en faire la promotion spécialement, parce que je pense qu'il y a peut-être plein de problèmes liés à ce film. Mais en tout cas, il y a une figure de journaliste, femme, qui est Jennifer Connelly, qui travaille pour le National Geographic, qui est reporter de guerre et qui est l'héroïne du film. Et je trouvais cette héroïne extraordinaire, en fait, tout simplement. Elle m'a passionnée, j'ai vu ce film plein de fois et je me disais, j'adorerais faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle souvent du rôle des représentations, parce que ça peut littéralement créer des vocations ou des envies de carrière, tout en ayant bien sûr aujourd'hui bien conscience que ce qu'on voit dans les films hollywoodiens n'a absolument rien à voir avec la réalité des professions, que ce soit du côté des avocats ou évidemment du côté du journalisme, puisque là, dans ce film, en l'occurrence, c'est vraiment pas ce qui se passe sur le terrain.
À quel moment vous quittez l'Ardèche alors dans cette histoire ?
À
18 ans. Et vous allez où alors ? Vous faites quoi ?
Je vais à Lyon. À 18 ans, après avoir passé 3 ans en internat dans la plus grosse ville d'Ardèche qui est Aubenas. Donc déjà, pour moi, c'était un peu quitter le foyer parce que je rentrais quasiment pas chez moi. Et ensuite, je suis allée à Lyon en classe préparatoire, Hippocagne puis Cagne.
Ça s'est bien passé ?
J'ai pas trop apprécié l'expérience. Je pense que c'était un peu...
Pourquoi ?
Parce que c'était très différent de ce que j'avais connu, parce que le classique, j'avais l'habitude d'être première de la classe et d'un coup, je n'étais plus du tout. J'étais même vraiment dans les dernières. J'ai eu beaucoup de difficultés scolaires, ce que j'avais jamais eu dans ma vie.
Et comment vous l'expliquez alors ?
Je pense que j'avais quand même un retard en termes de capital culturel, même si j'ai absolument conscience que je suis pas du tout fille d'ouvrier. J'avais déjà probablement un certain capital culturel. Mais par rapport à beaucoup de mes camarades à l'époque, qui avaient vécu dans le centre-ville de Lyon, qui avaient vécu dans des zones urbaines, moi j'avais pas du tout eu le même accès, je pense, dans ce territoire rural qu'est l'Ardèche, à la même culture. Et c'était pas quelque chose aussi dont on m'avait parlé, la classe préparatoire, pour le coup, c'était pas du tout quelque chose dont mes parents m'avaient parlé spécialement. Et j'y étais allée principalement pour faire du théâtre, parce qu'il y avait une option théâtre.
Oui.
Donc j'étais pas préparée, je pense, aussi psychologiquement à ce que ça allait être. Et j'étais pas du tout préparée non plus à la charge de travail, donc ça s'est pas très bien passé. J'ai même été très rapidement convoquée pour cause de nullité. Et c'était pas faute d'essayer. En plus, j'essayais de bien faire, mais c'est vrai que ouais, ça s'est pas super bien passé. Et même en termes d'intégration sociale, je me sentais très éloignée des préoccupations de mes camarades.
Mais c'est un vrai complexe que vous avez vécu ou pas ? Vous le ressentiez comme ça ?
En tout cas, moi, j'ai quitté cette classe préparatoire. Je n'ai pas eu le concours de l'ENS, donc Normal Sup. Et j'étais convaincue que je n'étais plus faite pour les études et que j'étais trop bête pour faire des études. Donc c'est aussi, moi c'est vraiment un système que je critique. Je sais que Ça peut aussi donner de très bonnes choses, les classes préparatoires, mais c'est quand même assez excluant. Et quand on fait partie des élèves qui ont été identifiés comme n'ayant pas le potentiel pour obtenir une grande école, ce qui était mon cas, on est un peu mis sur le carreau. Et on est vraiment vu, enfin, faut voir, on est toujours classé en permanence, on connaît le classement de tout le monde. Il y a vraiment une compétition qui est installée par l'institution. Et je pense que ça produit quand même des effets assez délétères, surtout pour les élèves qui sont en bas de l'échelle. Mmh. Donc moi, j'ai vraiment quitté ça très dépité et puis avec un manque de confiance en moi quand même assez flagrant.
Vous écrivez, vous dites en tout cas, j'étais très excentrique dans ma manière de m'habiller, beaucoup de couleurs, du rouge, des plumes.
Des plumes. J'ai eu cette interview très informelle avec votre collègue.
Je parlais fort, je rigolais très fort et je ne prenais pas le truc au sérieux.
Oui, parce que moi j'étais là à la base pour faire du théâtre en fait. Je comprenais pas qu'on soit aussi sérieux tout le temps parce que c'est quand même beaucoup d'heures la classe préparatoire, puis c'est beaucoup de devoirs. Moi j'avais envie de découvrir la ville, j'avais envie de m'amuser, c'était pas du tout effectivement l'ambiance. Tout ce qui me choquait, c'est que les autres élèves étaient très déterminés quand même pour beaucoup d'entre eux à obtenir ces concours dont je ne connaissais même pas l'existence en arrivant en classe préparatoire. Donc c'est dire à quel point j'étais quand même déconnectée. Et effectivement, je pense que mes anciens camarades témoigneraient fortement de
ça. On veut les photos.
C'est-à-dire que non, j'avais un style tout à fait qui a duré pendant très longtemps, avec beaucoup de couleurs, des foulards dans les cheveux, autour de la taille, des plumes de toutes les couleurs, des bijoux absolument excentriques. Souvent, je m'habille un peu en monochrome, donc c'était une journée bleue, une journée violette. Et il y avait très souvent une journée rouge, parce que j'adorais déjà le rouge.
Donc vous êtes bien dans ce décor de France Inter qui vous entoure.
France Inter. Et c'est vrai que j'avais... on m'a souvent dit que j'étais une gitane, une hippie, c'est des termes qu'on m'a apposés, que j'avais pas du tout conscientisé, et que j'étais vulgaire, que je rigolais trop fort, que effectivement c'est des choses qu'on m'a dites. En fait, c'est pas tant moi qui le revendique, c'est que c'est des choses à l'époque qu'on m'a beaucoup dites.
Donc prête à arriver en Espagne dans un décor à l'Almodovar.
Ah, là j'étais bien.
C'était parfait là, hein, parce que vous arrivez effectivement à Madrid. Pour Erasmus, et évidemment, extrait de l'auberge espagnole de Cédric Clapiche.
Erasmus ?
Ouais. T'es étudiant en quoi ?
Économie.
Waouh, sérieux ? La bourse, tout ça ?
Un peu ça, ouais.
Et tu connais Barcelone ?
Non, en fait, je débarque, là.
Alors là, je peux te dire, tu vas t'éclater.
Ah ouais ?
Ah ouais. Tu vois, mortel. Les gens commencent à aller resto vers 22h. Après, c'est parti pour la fête. Ah, c'est les fêtes tard, hein, Barcelone. Ça, faut le savoir. Quand on vient pour faire Erasmus, il faut s'accrocher. Hein.
Voilà, 2002. Et votre Erasmus où ? À Madrid, en l'occurrence, pas à Barcelone. Ça ressemblait à quoi, Salomé Saquet ?
C'était extraordinaire. Bon, déjà, après la classe prépa, j'étais passée à Lyon 2, à la faculté en sciences politiques et en anglais. J'avais repris un peu le goût des études parce que là, ça s'est déjà très bien passé. Et effectivement, j'arrive en master en Erasmus à Madrid, et c'est une des meilleures années de ma vie parce que ça va être très riche intellectuellement. Alors je sais qu'il y a ce cliché qu'on fait beaucoup la fête. Moi je l'ai faite évidemment, mais c'était pas le centre de mon année d'Erasmus. J'étais vraiment passionnée par cette université qui est l'université Complutense, qui est une université plutôt politisée, plutôt engagée, ou en tout cas il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment
par exemple,
notamment la naissance du mouvement des indignés dans les années 2010 en Espagne, qui a été un mouvement d'occupation de l'espace public, un mouvement de grève, de protestation face aux mesures d'austérité qui avaient été imposées à l'Espagne suite à la crise économique de 2008. C'est un mouvement dont j'avais déjà entendu parler. Je ne suis pas allée dans cette université pour ça, mais le fait d'y être avait quand même une saveur particulière. Il y avait des élèves brillants, des profs brillants, et surtout, ça a été le moment où, parce que là, j'adorais vraiment les études, là, j'étais à fond, c'était là, j'avais vraiment repris du poil de la bête là-dessus, où j'ai pu faire plusieurs cours, en plus des cours qui étaient ceux de, à l'époque, je faisais de la diplomatie et déjà du droit international et des sciences politiques, et j'ai pu rajouter un master de journalisme sur place. Et j'ai fait la rencontre d'un professeur extraordinaire qui m'a vraiment donné ma chance et qui m'a encouragée là-dedans. Alors moi, c'était pour moi une option en plus parce que j'aimais déjà beaucoup le journalisme, mais je ne me voyais pas journaliste. Et ce professeur m'a déjà beaucoup corrigé mes papiers, m'a encouragée. Puis, à la fin de l'année d'Erasmus, m'a donné la possibilité de faire un stage à la RTE, donc la RTE,
radio
pardon,
espagnole,
l'équivalent de Radio France, mais en Espagne, et où j'ai pu faire mes premiers reportages, faire mes armes et avoir notamment une maîtresse de stage qui m'a beaucoup enseigné. Donc ça a été aussi l'année de mes premiers pas dans le journalisme. Donc c'est une année extraordinairement importante. Je rajouterais juste la culture espagnole qui me parlait beaucoup et qui a fait que j'ai voulu beaucoup y retourner et où je me suis sentie totalement à ma place, l'opposé de l'hypocagne.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Pendant plus d'un mois, nous sommes allés à la rencontre d'une trentaine de victimes à travers la France.
toutes racontent le même calvaire.
Et là, je vois que des matraques, en fait. Je vois même plus de corps. Je vois que des matraques qui frappent.
Je me suis retrouvé isolé. Le temps que je comprenne et que j'étais en situation, si je puis dire, dangereuse, je me suis retourné. C'est là que je l'ai pris en pleine tête.
Toutes donnent à peu de choses près le même récit. Des personnes novices en manifestation qui ne s'attendaient pas à être prises pour cible par les forces de l'ordre.
Salomé Sacké, c'est marrant parce qu'en 2018, votre voix
c'est
a changé
fou.
Aussi.
Mais bien sûr, c'est vos je ne savais pas parler là.
C'est votre première vidéo quasiment en tant que journaliste autour des Gilets jaunes.
Oui.
Donc vous êtes rentré en France après l'Espagne. Et là, vous commencez dans un média en ligne, c'est ça?
Exactement. Alors... Non, en réalité, je suis rentrée en France pour faire du droit international, terminer des études de droit parce que ça avait l'air d'être des études sérieuses.
Ouais.
Et en parallèle de ces études, je suis rentrée à France 24 en tant que stagiaire, donc la chaîne internationale, dans laquelle je vais rester 4 ans, notamment en tant qu'assistante rédactrice en chef, puis en tant que rédactrice, où je vais faire un peu mes armes. Et à ce moment-là, quand je viens de terminer...
Vous avez quel âge à ce moment-là, pardon, mais...
J'ai 22, je termine mes études.
Rédactrice en chef, enfin...
Non, pas rédactrice en chef, rédactrice
court.
Rédactrice en chef.
D'accord.
J'ai dit rédactrice en chef.
Oui, absolument.
N'importe quoi.
Bon, pas,
Vraiment, je m'emballe...
Okay. Je trouvais ça pas mal pour...
Non, mais pas du tout. En plus, il y a des années-lumière d'être ça. Pardon, je suis très fatiguée. C'est la chaleur. Non, pas du tout rédactrice en chef, rédactrice.
Journaliste.
Et c'est là-bas que je vais faire un peu mes armes. Et... À ce moment-là, donc un an plus tard, va survenir le mouvement des Gilets jaunes. Donc à ce moment-là, je suis à France 24, j'ai repris des études de journalisme à côté, à la Sorbonne, et je pige un peu pour certains médias, c'est-à-dire que je fais des journées ponctuelles de travail, notamment pour la chaîne de télévision ABC News, qui est en Australie. Et je constate, en allant sur le terrain, en plein milieu du mouvement des Gilets jaunes, que le traitement médiatique français, notamment dans des chaînes d'information en continu, regardées par beaucoup de Français, n'est pas à l'image de ce que moi je vois sur le terrain.
C'est-à-dire, c'est quoi la dissonance en fait?
À savoir, beaucoup de violences policières, dont je suis témoin. Et bien évidemment qu'il y a aussi des violences du côté des Gilets jaunes, mais moi je vais être témoin à plusieurs reprises de violences totalement injustifiées, dans des cadres où il n'y a pas de violences du côté des Gilets jaunes, qui ne vont pas être documentées comme telles à ce moment-là dans les médias. Et deuxième chose qui va beaucoup me choquer à l'époque, c'est la disqualification de la mobilisation, de la raison de la mobilisation des Gilets jaunes, qui moi va beaucoup me parler, puisque précisément je viens d'Ardèche où il n'y a pas de gare, où il n'y a pas d'autoroute, où la voiture est absolument essentielle pour se déplacer, et où une hausse du prix du carburant est dévastatrice, et surtout au nom de l'écologie à laquelle je suis quand même déjà sensible à l'époque. Et donc, c'est ça qui va me faire me dire, mais je voudrais traiter ça autrement. Et donc, je vais proposer des sujets à l'époque, à quelques rédactions, mais qui je ne travaille pas avec beaucoup de rédactions, sur ces violences policières qui vont m'être refusées. Et donc, je me dis, il y a un média étudiant indépendant, complètement bénévole. J'ai envie de faire... C'était tellement insupportable pour moi de ne pas pouvoir faire comme je voulais. Je vais faire ça toute seule. D'où le fait que ce soit quand même globalement mal réalisé. Je l'ai fait avec un ancien... Enfin, un stagiaire...
Non, mais c'est très bien. C'est un reportage qui pourrait être
diffusable.
C'est une voix, des témoignages...
Alors, ça reste un reportage. Et voilà. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, des années après, j'entends les problèmes qui ne vont pas dans ma voix, notamment dans ma narration. À l'époque, c'est avec un autre stagiaire avec qui je suis très amie aujourd'hui, qui est Antoine Désert, et qui va réaliser ça avec moi. Pareil, lui, il est au tout début de son travail de reporter d'image. Donc, on va faire ça tous les deux.
Et ça marche.
Et ça va exploser sur Facebook à l'époque, sur ces réseaux sociaux-là. Même si on a un peu bricolé ce truc-là. Enfin, on n'avait vraiment pas de moyens, on n'a pas été envoyé par une chaîne de télé. Et c'est là où je vais me dire, mais c'est quand même intéressant, ces médias indépendants. C'est un endroit où on a une liberté totale, évidemment de ton, mais aussi une liberté de format. Contrairement à la télévision dans laquelle je suis en train de travailler, où c'est extrêmement encadré, extrêmement strict.
Pourquoi ça devient viral à votre avis d'ailleurs ces vidéos? On ne vous connaît pas du tout à l'époque, vous arrivez sur le terrain, vous faites témoigner des gens sur cet événement qui a marqué la France évidemment à ce moment-là. Pourquoi ça fonctionne?
Parce qu'au moment où on le sort, personne n'en parle. Il y a David Dufresne qui commence à en parler, mais on est vraiment... tout premier sur ce sujet des violences policières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quasiment de contenu journalistique sur les violences policières.
Ouais, là, c'est sur les blessés.
Gilets jaunes. En fait, c'est ça.
Les blessés,
C'est un tout petit documentaire, un petit reportage de, 20 minutes, qui fait état des différentes violences policières et surtout des conséquences désastreuses que ça a eu sur ces personnes qui sont simplement venues manifester pour la plupart pour la première fois de leur vie, qui étaient pour beaucoup pacifiques et qui ont perdu un œil, une main, des dents, qui ont vraiment eu des conséquences extrêmement graves sur leur vie et qui doivent non seulement faire face évidemment aux conséquences des blessures, mais aussi au fait d'être très seuls et d'écouter des médias qui culpabilisent ce mouvement-là et de ne pas être écoutés. Et je pense que ce qui a marché dans ce reportage-là, c'était vraiment le contexte. texte et le fait qu'on était seul sur ce sujet.
Après les Gilets jaunes, vous allez travailler, parce que du coup, votre nom circule beaucoup, on vous voit pas mal, pour différents médias, vous répondez à beaucoup de propositions entre médias mainstream et médias indépendants, c'est-à-dire que vous allez un peu partout ?
Oui. Je vais principalement être quand même dans les médias mainstream au début. Hein. C'est surtout que moi j'ai zéro idéal de médias indépendants. Je reste quelqu'un qui a eu une formation journalistique traditionnelle, qui a un idéal du journalisme qui est quand même celui du service public, beaucoup du service public, de la télévision, de la radio, et de la presse écrite un peu noble, entre guillemets. Donc je vais faire un stage au monde diplomatique, par exemple, que je vais adorer, mais j'ai du mal à penser le média indépendant. Simplement, comme il y a ce média Le Vent se lève qui me laisse faire ce que je veux, c'est tout. En fait, ce que je vais faire au Vent se lève, c'est tout ce que je peux pas faire ailleurs. Et aussi les responsabilités qu'on me donne, qui, évidemment, au tout début de ma vingtaine, ne sont pas celles que j'aurais dans un média traditionnel. Donc je vais un peu aussi entre les deux. Et quelques années plus tard, Denis Robert va vouloir fonder Blast et va m'appeler...
Spécialiste du journalisme d'enquête. Hein.
Oui, journaliste d'investigation renommé, à l'origine de l'affaire Clearstream, qui va me voir passer notamment sur ses petites vidéos sur Internet et qui va m'appeler pour me dire « Je crée un média indépendant, est-ce que tu veux en être ?»
Et c'est Blast, donc.
Et c'est Blast.
En l'occurrence. Et puis, Radio France, régulièrement, on le disait tout à l'heure, il y a un moment de télévision qui a beaucoup marqué aussi, c'était en octobre 2021, vous êtes sur le plateau d'Arte, c'est 28 minutes.
C'est déjà 2021.
Eh oui, madame. On va vous retrouver avec Jean Quatremer et Étienne Jernel, le patron du Point.
Juste, vous dites que la France fait son travail, la France vient à peine de se faire condamner.
Vous pensez à l'affaire du siècle ?
Mais bien sûr, elle vient de se faire condamner pour inaction climatique. J'aimerais rappeler que même si on respecte tous ses engagements, le GIEC dit qu'on est à un scénario à plus de 2,7 degrés à la fin du siècle. Et si les mesures sautent, on est à plus 4 degrés. On parle d'apocalypse, on parle de... Non, mais vraiment, c'est pas radical, c'est pas excessif de ma part de dire ça. C'est les scientifiques qui le disent. Moi, je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement, qui va vivre...
Bah, merci pour nous. Hein.
Non, mais... Bah, désolé.
C'est super sympa. Il faut la réinviter. Alors que les deux boomers à côté de moi...
C'est un moment, il faut des mesures absolument urgentes, y compris en cas d'un échec du multilatéralisme.
Super,
on ne peut pas attendre.
Venu, hein.
28 minutes, 31 octobre 2021. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire, ce moment de télé, là?
Bah, je suis au début de mes interventions à la télévision où j'essaie de me faire un nom en tant que journaliste sérieuse sur les, avant tout sur les questions économiques puisque c'est ça dont je parle à Blast et sur les questions écologiques qui sont imbriquées en réalité. Mais c'est pas mon grand domaine de spécialité. Je me retrouve effectivement dans cette émission, mais comme beaucoup d'autres en fait, beaucoup d'autres séquences à parler de l'urgence écologique, à expliquer qu'on peut pas simplement prendre ça à la légère. Et effectivement, je pense qu'il y a deux personnes avec moi sur le plateau qui n'ont pas la même vision des choses, notamment qui utilisent un peu l'argument de on est petit, la France, et donc c'est pas à nous de régler ça, ou en tout cas, alors que c'est un moment de COP.
Les fameux 1%, hein.
C'est les fameux, voilà. Et, effectivement, alors cette séquence va beaucoup tourner, je tiens à dire que moi je l'ai juste mise sur les réseaux sociaux sans commentaire particulier, et comme surtout l'intégralité de mes séquences télé à l'époque, donc il y a rien de, pour moi je mets toutes mes séquences, bon voilà, celle-ci va marquer les gens, et va beaucoup tourner, et va indigner une partie, notamment des jeunes, qui vont y voir l'incarnation de cette incompréhension parfois générationnelle et surtout du fait que certains tournent en dérision l'urgence climatique. Je suis pas sûre que c'était l'objectif des personnes qui étaient avec moi en plateau.
Oui, mais c'est comme ça que ça a été vécu en tout cas. Hein.
Oui, mais c'est vrai que c'est quand même... je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette séquence parce que une séquence qui buzz est une séquence qui vous échappe et qui va faire l'objet de très nombreuses interprétations et sur laquelle on n'a plus du tout son mot à dire. Donc c'est vrai qu'à l'époque, j'ai été très surprise par le buzz immense que ça a fait.
Est-ce qu'elle a un lien, cette séquence, avec le livre, le premier que vous allez écrire justement, « Sois jeune et tais-toi », réponse à ceux qui critiquent la jeunesse?
Honnêtement, non. Honnêtement, c'est pas cette séquence-là. Parce que moi, elle m'a pas marquée. Hein. Quand je suis sortie du plateau, je me suis pas du tout dit « Oh là là, j'ai été humiliée sur un plateau ». Non, pas du tout. Elle était même pas particulièrement violente par rapport à d'autres choses que j'avais pu vivre. Non, ce livre, il a été vraiment motivé par le fait que, de manière générale, je n'arrivais pas à me faire entendre, vraiment de manière très large, je trouvais, sur les plateaux de télévision, pas prendre avec le même sérieux. Surtout, j'étais dans une situation de précarité économique. J'enchaînais les piges, j'étais quand même à Paris, je suis toujours à Paris, mais qui est une ville extrêmement chère, et je n'avais pas d'aide financière de mes parents. Donc, il fallait quand même réussir à vivre entre les stages, les piges, et c'était difficile. Et je voyais qu'autour de moi, beaucoup de personnes de mon entourage se disaient, mais tu as quand même deux Master 2, deux licences, tu as beaucoup de diplômes, tu travailles, je travaillais beaucoup de nuits, je travaillais mais un nombre d'heures par semaine pas possible. Comment est-ce possible de ne pas avoir de CDI? Comment est-ce possible de vivre dans ces conditions? Et il y avait un truc un peu culpabilisant de, mais c'est toi qui fais quelque chose de pas bien. Et moi, ce livre, c'était une réponse pour dire, mais non, les choses ont changé depuis votre génération, parce que souvent, c'est des personnes plus âgées. Aujourd'hui, être jeune et vouloir travailler et vouloir vivre de son travail, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant.
Salomé Sacqué, c'est l'année de vos 30 ans, vous les avez eu il y a quelques jours, et l'année de vos 30 ans, vous interviewez sur TF1 le président de la République lors d'une émission avec d'autres personnalités. C'est Emmanuel Macron, les défis de la France. On va juste écouter un extrait de votre intervention.
Oui, bonsoir Monsieur le Président. Je suis venue vous parler des jeunes ce soir et des immenses problèmes qu'ils rencontrent. Et je voudrais commencer par la santé mentale. Vous avez dit, il n'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Eh bien, en 2025, ça ne s'est pas arrangé. Est-ce que vous pouvez réellement dire aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir, que vous avez été à la hauteur pour répondre à la détresse de ces jeunes Français ?
Merci beaucoup d'abord d'aborder ce sujet.
Voilà, pour ceux qui souhaitent la suite, c'est tout à fait disponible sur Internet. Est-ce que dans votre parcours, cette interview, ça a quelque chose de particulier ? Interviewer le président de la République à 29 ans, 30 ans ?
Ouais, bien sûr. Je ne l'ai jamais commenté ça publiquement encore. Oui, surtout il faut vraiment se rendre compte que moi j'ai commencé ma carrière du coup exactement au moment où Emmanuel Macron a été élu. Donc je n'ai fait que couvrir toute sa politique. Je pense avoir regardé la quasi-intégralité de ses prises de parole depuis qu'il est président de la République, c'est-à-dire beaucoup de prises de parole, les grands débats, vraiment tous ces moments où il a parlé parfois pendant des heures et des heures et des heures, au point que parfois, vraiment j'y repense le soir et tout, parce qu'il est présent de facto, puisque c'est quelqu'un qui est présent dans mon travail, mais que j'ai jamais vu. Donc il y a une espèce de relation, comme j'imagine beaucoup de journalistes, où je le vois pas en vrai. Et surtout, c'est quelqu'un dont j'ai vivement documenté la politique avec des aspects assez critiques quand même sur beaucoup d'aspects, que ce soit sur la jeunesse, que ce soit sur le climat, que ce soit sur les inégalités sociales. Et donc de l'avoir en face de moi, évidemment que c'était un peu stressant et un peu particulier et très frustrant, puisque je n'ai eu que 12 minutes et que bien sûr j'aurais aimé avoir beaucoup plus pour pouvoir lui répondre. Mais j'ai pu lui parler des grands enjeux qui me tenaient à cœur et surtout ceux sur lesquels j'avais le plus d'expertise, c'est-à-dire la santé mentale des jeunes et la manière dont les inégalités économiques frappent la jeunesse.
Et comment vous vous êtes préparé à cet entretien ? Comment on prépare, jeune journaliste, un entretien sur TF1 avec le président de la République ?
Oui, c'est vrai qu'en prime time, sur TF1, la plus grosse chaîne avec le président, j'espère que, voilà, faut pas être stressé. Comment on prépare ça ? Eh bien déjà, j'ai pas eu beaucoup de temps, je l'ai su à peine une semaine avant, et j'avais déjà beaucoup de choses de prévues dans mon travail, des tournages et tout, que je pouvais pas annuler, donc en réalité, j'ai pas eu tant de temps que ça pour le préparer. Et ensuite, j'ai esquisser des questions en me demandant qu'est-ce qui allait parler au plus de monde possible, puisque je savais que j'allais pas non plus avoir un temps infini. J'ai vraiment pensé à deux choses. Premièrement, je savais que potentiellement je pourrais pas répondre, ça a vraiment été le cas. Je pouvais pas, on m'a pas laissé le temps de lui répondre, notamment à cette deuxième intervention. Donc, je voulais avoir plein d'éléments qui étaient déjà dans mes questions, des chiffres simples, chocs, qu'on puisse retenir. Ensuite, tout simplement, je me suis préparée psychologiquement, et c'était peut-être la plus grosse partie, c'est-à-dire que oui, c'est notre métier, on a l'habitude, mais je reste quand même humaine, j'ai pas l'habitude de faire dans ce type de conditions, donc tout simplement ça a été de bien respirer, de me détendre un peu et de faire baisser les enjeux, de m'isoler un petit peu, puisque tout le monde m'a envoyé des messages, il y avait mon nom partout à ce moment-là pour qui est cette personne, donc il y a eu tout un tas de requêtes de la presse et tout ça, donc c'était juste de rester calme, s'isoler, avoir des questions précises et savoir à peu près où j'allais. Et enfin, j'ai quand même appelé plusieurs experts de chaque domaine que j'allais traiter.
Pour valider vos questions.
Pour valider et surtout pour avoir, j'avais toute une feuille avec des éléments de réponse en cas de, pour anticiper potentiellement ce qu'il allait
dire. Le Figaro avait titré « Qui est cette journaliste de gauche qui va interviewer le président de la République ?»
Le Figaro, voilà.
Vous êtes une journaliste de gauche ?
Moi, je ne me revendique pas comme ça, absolument pas. Et je pense que de manière générale, le fait de mettre une étiquette politique à des journalistes, c'est une manière de les disqualifier. Je me considère d'ailleurs pas engagée, de manière générale, pas plus que d'autres. Et en tout cas, moi j'ai pas une... Je revendique pas de proximité avec un parti...
Il y a un engagement dans les sujets que vous choisissez, Salomé Sacqué.
Mais on en a tous. C'est-à-dire que les journalistes de BFM TV aussi sont engagés. Donc on pourrait aussi...
Donc vous pourriez dire que vous êtes engagés.
On pourrait aussi déterminer une couleur politique à ces journalistes-là. Mais on ne le fait pas. On ne le fait qu'avec...
Entre l'engagement et la couleur politique, il y a quand même un gap entre les deux.
Moi, je considère vraiment pas être, oui, être particulièrement engagée dans la mesure où je ne signe jamais de pétition, à part quand elle concerne ma profession directement. Mmh. Je n'appelle pas à manifester, je ne fais pas de lobbying politique, je ne soutiens jamais des partis politiques, je n'ai jamais soutenu un seul parti politique publiquement, j'ai jamais fait quoi que ce soit de qui noterait, je pense, d'un engagement particulier. Et pour moi, ce terme de gauche ou engagement ou même militant parfois, il n'est apposé qu'aux journalistes qui traitent de thématiques qui ne sont pas la norme et qui ne constituent pas le discours dominant ou qui ne font pas partie du discours dominant. Et donc si par exemple, je prends un exemple vraiment très très simple, mais si vous allez traiter le réchauffement climatique en ne remettant pas spécialement en cause le système économique dans lequel nous sommes, on va pas dire que vous êtes engagé pour maintenir ce système économique destructeur. On va rien dire, on va dire que vous êtes juste neutre ou que vous êtes voilà, juste journaliste. Par contre, si vous donnez la parole spécifiquement à des personnes qui remettent en cause ce système économique, ou si vous soulignez les failles de ce système économique, on va dire « Ah ben non, mais ça, c'est un journaliste engagé. » Donc tout est une question de point de vue. Moi, je récuse vraiment tous ces termes-là, parce qu'ils, pour moi, ils cherchent avant tout à cornériser, à disqualifier, et à dire, au fond, c'est quoi qu'ils disent ? On est un peu moins journaliste que les autres, parce qu'on serait biaisé plus que les autres. Et c'est pour ça que j'aime pas ce type de qualificatif, mais bon, j'accepte, c'est le jeu que certains l'utilisent.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « c'est lui, vous croyez ?» Alors il faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Ça, c'est une citation de Françoise Giroud qui ouvre le livre de Salomé Sacquet, Résister. Aujourd'hui, on est dans une période où on nous donne l'impression qu'en 2027, ça y est, c'est gagné, c'est l'extrême droite qui sera au pouvoir, mais en fait, rien n'est joué, il y a encore plein de leviers qu'on peut activer, et ce livre fait partie des armes qu'on peut utiliser, fait partie en tout cas des endroits où on peut trouver des pistes de solutions. Et franchement, ça fait du bien.
Il s'appelle Mathias Grosso, il a un compte TikTok qui s'appelle Le Marque Page. Il présentait donc votre livre, Salomé Sacquet, Résister, qui parle de résistance à l'extrême droite, qui s'est vendu à ce jour à presque 300 000 exemplaires. Comment d'abord vous expliquer le succès inouï de ce livre dans un monde de l'édition qui est totalement en berne en ce moment ?
C'est compliqué évidemment à expliquer. Je pense deux choses, évidemment le contexte politique qui a fait qu'en juin 2024, il y a peut-être eu l'espoir que nous avions dépassé la montée des autoritarismes et des discours de haine, et on constate évidemment en France que ce n'est pas le cas, mais aussi l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la dérive fasciste, qualifiée comme telle par de très nombreux chercheurs et spécialistes du sujet, qui je pense commence quand même à faire un effet assez de sidération en fait en France, et le fait que ce livre donne des faits clair, concret, sourcé sur ce qu'est l'extrême droite, comment elle progresse, quelle est sa stratégie et qu'est-ce qu'on peut faire potentiellement pour y résister. C'est un livre court, il fait une centaine de pages et surtout il vaut 5 euros. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué. Ça a été une grosse discussion avec mon éditeur, les éditions Payot, que je remercie infiniment d'avoir accepté de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça paraît une bonne chose, 300 000 exemplaires, mais il faut imaginer que eux, quand ils prennent cette décision, ils ne savent pas du tout si ça va marcher. C'est vraiment très très peu, c'est très très peu, 5 euros pour rentrer dans ses frais, c'est très compliqué.
Il faut en vendre beaucoup.
Il faut en vendre vraiment énormément. Donc pour eux, c'était une vraie prise de risque. Surtout que ça reste une petite maison d'édition indépendante qui appartient à Actes Sud. Et je pense que ça a beaucoup joué. Parce qu'en fait, le fait que ce soit aussi une façon de montrer et de dire, regardez, on fait tout ce qu'on peut, en fait, pour que ce soit un vrai acte de partage d'informations. Et tout simplement parce que les gens n'ont pas d'argent. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de problèmes d'inégalité économique dans ce pays, de précarité. Le fait d'avoir un livre qui a un prix le plus bas techniquement possible, je pense que ça a aidé.
Oui. Et puis, il est sorti en même temps que le livre de Jordan Bardella.
Ah oui, alors
ce qui a été assez extraordinaire. Parce qu'il y a eu aussi tout un mouvement sur les réseaux sociaux, lecteurs de Salomé Sacquet qui allaient poser votre livre dans les rayons sur celui de Bardella, et tout ça, ça tourne énormément aussi.
Oui, alors c'est pas pareil, je m'y attendais pas du tout. Il faut savoir que au vu du sujet qui est quand même très délicat, c'est un livre qui a été sous embargo. Nous n'avons pas annoncé sa sortie du tout, comme c'est coutume de le faire. Il a été annoncé le jour J, globalement, dans la presse, donc les journalistes, tout ça, n'étaient pas au courant. Et Jordan Bardella a fait exactement la même chose de son côté, donc moi je ne le savais pas non plus, pour son livre sur sa biographie programme, là, qu'il a sorti exactement en même temps. Donc effectivement, il y a eu un phénomène un peu dans les librairies où beaucoup de gens ont pris ce livre Résisté, l'ont posé devant celui de Jordan Bardella et en ont fait des vidéos qui ont beaucoup tourné sur
Mais c'était un acte de résistance aussi, finalement.
Ça a été, j'imagine, vu comme ça. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'est très compliqué de sortir un livre sur l'extrême droite en étant exposé comme ça. Moi, j'ai pas voulu faire de presse. J'ai pas voulu aller dans les médias. J'ai fait un article à l'époque pour Télérama. Et j'ai pas voulu faire la télé. J'ai pas voulu faire les débats parce que j'étais déjà fatiguée et que surtout, ça allait provoquer énormément de haine. Et donc, c'est vraiment les gens qui ont fait la promotion de ce livre. C'est vraiment le public qui a permis qu'il soit connu et je suis infiniment, évidemment, reconnaissante à toutes les personnes qui en ont parlé autour d'elle ou qui l'ont partagé sur les réseaux sociaux.
Vous receviez derrière le prix Babelio pour ce livre, Résister, et dans votre discours, vous citiez une phrase du philosophe Elie Wiesel qui disait « La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. » C'est ça, la résistance, ne jamais rester silencieux ?
Oui, et c'est un message que j'adresse également à nos confrères et à nos consoeurs. C'est qu'il y a des moments où il faut, je crois, sortir... Déjà, je pense qu'on n'est jamais dans la neutralité. La neutralité est déjà une forme de prise de position. Mais il y a des moments où la neutralité et le silence sont particulièrement dangereux. Mmh. Et je crois qu'on est en train de rentrer dans cette période. Et c'est une manière de rappeler brièvement dans le livre que les pires moments de l'histoire ont aussi été permis grâce... enfin à cause d'une masse silencieuse, de plein de personnes qui n'ont pas forcément participé aux atrocités, mais qui se sont tues face à ça. Et à l'heure où tout le monde se réclame de la résistance, évidemment celle de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui tout le monde, tous les partis politiques, tous les bords, tout le monde dit « mais bien sûr, la résistance c'est merveilleux », il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, c'est une minorité de gens qui vont résister, qui vont prendre ces risques, et que aujourd'hui, toutes et tous, quand on pense à cette période de l'histoire, on se dit « mais bien sûr que j'aurais été résistant ». Et là, on est à un moment, bien sûr, je fais pas un parallèle direct entre les périodes, on est à des périodes très différentes, je fais une distinction claire, mais on est dans un moment où on peut se poser la question quand même de notre neutralité, et peut-être arrêter de se demander, je crois que c'est d'ailleurs Cyril Dion qui disait ça à votre antenne, arrêter de se demander ce qu'on aurait fait à l'époque, et plutôt se demander qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui.
Mais ça résonne avec ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect engagé du journalisme, parce qu'on peut pas être neutre finalement, en tout cas c'est pas ce journalisme-là qui vous intéresse.
Mais parce que le journalisme, ontologiquement, est un engagement. On est engagé dans l'idée que la diffusion de l'information au grand public est utile. Et c'est déjà une prise de position, c'est déjà un point de vue très démocratique. À quoi sert l'information ? L'information sert à éclairer les citoyens et les citoyennes pour que nous puissions collectivement prendre les meilleures décisions possibles dans le cadre d'une démocratie. Avoir des citoyens ultra informés ne sert à rien dans le cadre d'une dictature. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les dictatures s'attaquent toujours aux médias, à la presse libre. Donc, moi, je suis engagée pour une certaine vision de la démocratie qui implique le fait de pouvoir avoir une presse libre. Et c'est pour ça que j'ai précisé d'ailleurs tout à l'heure, je signe pas de pétition ou je m'engage pas, sauf pour ce qui concerne directement ma profession. Donc moi, mon engagement, c'est celui du journalisme. C'est celui de la diffusion de l'information et c'est celui de la protection de la liberté de la presse.
Et justement, sur l'avenir de l'audiovisuel public, Salomé Sacquet, il y a un texte qui va passer devant l'Assemblée nationale, défendu avec beaucoup de passion, si je puis dire, par Rachida Dati. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là, en ce moment, de faire une holding entre France Télévisions et Radio France ? Qu'est-ce que ça raconte, au fond, aussi, de nos maisons de services publics, pour vous ?
Alors, déjà, je ne connais pas le sujet dans tous les détails, donc je veux mettre une précaution quand même avant de m'exprimer, mais de manière générale j'ai la sensation, et de ce que j'ai pu lire sur le sujet, qu'il s'agit surtout de faire des économies, qu'il s'agit surtout de réduire l'indépendance aussi du service public. On rappelle que cette loi arrive après plusieurs autres, notamment une qui a supprimé la redevance, qui donc...
C'était la première décision de Emmanuel Macron numéro 2. Hein.
Voilà, donc il y a quand même des attaques répétées qui sont effectuées à l'endroit du service public et qui sont, je crois, extrêmement inquiétantes, puisque le service public de l'information, rappelons-le, répond à cette idée que l'information est un bien commun, qui mérite un service public comme les autres, comme on a l'hôpital pour la santé, comme on a l'école pour l'éducation. Et s'attaquer à ça, c'est s'attaquer à cette idée d'information qui est un bien public, et donc que les personnes qui nous écoutent, et les citoyens et les citoyennes, ont le droit d'avoir un accès permanent à de l'information sourcée, plurielle, et de l'information de qualité. Et donc je suis extrêmement inquiète des attaques qui sont faites à l'endroit du service public. J'en parle d'ailleurs dans Résister, parce que je pense qu'il faut vraiment défendre avec vigueur ce service public de l'information.
Le texte a été adopté au Sénat il y a déjà 2 ans. Il passe donc en lecture le 30 juin prochain. Et évidemment, les auditeurs et auditrices de Radio France vont beaucoup en entendre parler, tout comme France Télévisions.
Je me permets de rajouter, parce que c'est très important de le comprendre et de le rappeler au vu du fait que ce type de loi passe très tranquillement à chaque fois, que le journalisme, ce n'est pas qu'une affaire de journaliste. Quand on dit ça au micro, on n'est pas seulement en train de défendre nos intérêts, nous, de journalistes. Enfin, moi, je ne suis même pas sur le service public, je suis rémunérée par Blast. C'est une affaire de bien commun, c'est une affaire de démocratie. Quand on s'attaque à la presse libre, quand on s'attaque au service public, quand on s'attaque aux journalistes de manière générale, on abîme la démocratie. Et donc, la question qui se pose, elle est celle qui se pose à tous les citoyens, toutes les citoyennes, dans quel pays on veut vivre, avec quel type de structure démocratique. Et c'est vraiment important de le comprendre, le journalisme n'est pas qu'une affaire de journaliste, c'est aussi votre affaire, à vous qui nous écoutez.
Et c'est pour ça que c'est important aussi d'en informer les auditeurs et les auditrices. Salomé Saké, vous avez donc tout juste 30 ans, vous avez connu ces dernières années une montée fulgurante auprès du public. Comment vous vivez-vous cette popularité ?
Bon, déjà, elle est toute relative. C'est pas non plus... ça va, je marche tranquillement dans la rue, mais c'est... je vis plutôt bien le fait d'être lu.
Il y a eu du cyberharcèlement aussi,
voilà, vous en avez parlé. C'est à double tranchant. Hein. En fait, c'est vraiment à double tranchant. Je suis ravie que mon travail soit lu, et je pense que c'est écouté et d'être entendu sur certains sujets. Et ça, c'est la première chose quand même à rappeler. J'ai conscience du privilège immense que j'ai, et j'aurais jamais imaginé il y a quelques années avoir cette chance-là que de pouvoir écrire des livres, être rémunéré pour ça, surtout que ça ait un impact. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est effectivement qu'il y a un revers de la médaille qui est assez violent, avec un cyberharcèlement constant, du dénigrement dans les médias, beaucoup, 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 beaucoup de sexisme, beaucoup de menaces, beaucoup de choses extrêmement désagréable, donc j'essaie comme je peux de gérer ces deux aspects.
Et à 30 ans, on a envie de se projeter encore en tant que journaliste pendant très très longtemps, vous pourriez faire autre chose ?
Je crois qu'on est journaliste précisément parce qu'on ne peut pas faire autre chose et qu'on ne se voit pas faire autre chose.
Merci beaucoup Salomé Saké, on peut lire Résister donc chez Payot ou encore Sois jeune et tais-toi. Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Au micro de la Terre au Carré, on termine avec les messages, vos messages, c'est le répondeur.
Bonjour, Alain d'Orléans. Dites, à l'heure où les sénateurs viennent de voter pour réouvrir Fessenheim et construire d'autres EPR sur France Inter ce soir, aux informations, et ben on entend que la pauvre EDF, ils sont obligés de fermer leur centrale parce que il va faire trop chaud. C'est pas un réchauffement climatique qui est prévu dans quelques temps. Alors les centrales, ils ont intérêt à bien les recalculer, en plus de prix que ça va coûter. À bientôt.
Bonjour, c'est Michel de Montauban de Bretagne. Dimanche dernier, j'ai visité avec d'autres un élevage de cochons bio, plein air, où les cochons et les truies sont bien traités. Ils sont heureux, ils ont leurs comportements sociaux, ils ont le milieu qu'il faut. L'éleveur est vraiment sympa avec eux. Il y a une insémination naturelle aussi, dans la mesure du possible. Donc, on peut manger de cette viande-là, sans état d'âme, et avec modération, bien sûr, mais voilà, il y a des alternatives, en fait.
Bonjour, c'est Jean-Noël, éleveur de cochons laineux dans la Sarthe. Vendredi dernier, je sais pas si vous êtes au courant, mais Sarthe, Mayenne, Orne, on s'est fait un peu grêler à partir de 18h. Moi, j'étais travaillé dans le champ des cochons sur le coup de 15h, et bizarrement, tous mes cochons étaient sous les abris, en train de dormir, comme s'ils sentaient qu'il allait se passer quelque chose 3 heures avant que ça nous tombe dessus. Donc, moi, je suis quand même impressionné par ces bestioles. À défaut de devenir végan, je pense que je vais devenir végétarien parce que j'ai encore tué 2 cochons ce matin et ça commence à me faire mal au cœur. Voilà, bonne continuation à vous. Au revoir.
Oui, bonjour France Inter, Elisabeth, Paris. Je voulais simplement réagir à la lutte enchantée de Cyril Dion, simplement pour signaler que le numérique était responsable de 4% des effets à effet de serre en 1919. Donc là, on commence à avoir chaud. Et on pourrait avoir simplement le réflexe de commencer à limiter nos usages du portable et de l'ordinateur. Merci.
Oui, bonjour, c'est Marion de Paris. Juste pour dire que j'habite pas très loin de la Porte de Bagnolet, pas très loin du Salon du Bourget, et que depuis que le salon est ouvert, c'est une succession d'avions qui passent, d'hélicoptères, parfois à très haute altitude, n'empêche qu'on les entend. C'est sans arrêt, même la nuit. Et je dois dire que c'est assez insupportable de se dire toute cette pollution engendrée, le bruit, enfin les inconvénients, c'est extrêmement pénible. Et je n'habite pas juste à côté, donc je suis de tout cœur avec les les voisins de cette exposition, voilà, parce que c'est infernal. Merci, la Terre au carré. Au revoir.
Et merci pour vos messages, 01 56 40 45 45. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission, Valérie Ayestaraï, Nicolas Delmas à la technique et Anna Massardier pour notre invité au carré.